Vous êtes sur RTL. RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et RTL Soir se prolonge avec le journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
À la une, la petite Mia, toujours introuvable, elle pourrait se trouver à l'étranger.
L'hypothèse en tout cas n'est pas exclue par le procureur d'Épinal, 3 jours après le kidnapping de la fillette par des survivalistes. Dans ce journal également, le gouvernement qui réfléchit à la 3e dose du vaccin, le flop de l'élection des syndicats dans les très petites entreprises, encore une fusillade mortelle aux États-Unis, et puis les baskets les plus cher du monde. Le pire, c'est qu'elles ne sont même pas neuves.
À la fin du journal, la météo et le froid, toujours.
RTL Soir.
3 jours après le déclenchement de l'alerte enlèvement pour la petite Mia, ils sont désormais 4 suspects en garde à vue. La fillette et sa mère sont toujours introuvables ce soir. Dimitri Ramelot, les autorités pensent qu'elle pourrait avoir passé la frontière.
Oui, pas de pays limitrophe avec le département des Vosges, mais la crainte d'une fuite vers un pays proche, Allemagne, Suisse, voire Luxembourg ou Belgique. Car les 4 gardés à vue, âgés de 23 à 60 ans et recrutés sur Internet par la mère de Mia, ont tous confirmé ses intentions. Nicolas Hetz, procureur de la République d'Épinal.
Lola Montemaggi, sollicitait pour récupérer sa fille dans le but de partir à l'étranger. L'opération avait été préparée de façon précise.
Et le parquet qui a lancé des demandes de coopération internationale a obtenu de la DGSI les informations permettant l'interpellation des 4 suspects, car la voiture de l'un d'eux, suivie par les services secrets dans une affaire de terrorisme, correspondait à l'un des véhicules ayant servi au rapt. Aucun antécédent judiciaire pour les garder à vue aux convictions très profondes.
Le premier, un homme de 58 ans, se disait résistant à la barbarie de ce système. Il estimait avoir permis à une petite fille de retrouver sa mère en agissant à la Arsène Lupin. Il se disait fier de ce qu'il avait fait, jugeant que les placements étaient faits de manière abusive.
Le quatuor en garde à vue n'a donné aucun élément permettant de localiser Mia, reconnaissant simplement avoir remis l'enfant à sa mère 20 minutes après le rapt.
Dimitri Ramelot pour RTL.
On en vient à la vaccination, Alexandre, la vaccination qui progresse.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que désormais quasiment 100% des résidents en EHPAD ont reçu au moins une dose du vaccin. C'est également le cas de 80% des soignants âgés de 50 ans et plus. Mais on est loin d'avoir fini d'entendre parler des vaccins. Le laboratoire Pfizer suggère qu'une 3e dose pourrait être nécessaire et même peut-être aussi un rappel tous les 6 mois ou tous les ans. Le ministre de la Santé confirme que ça fait partie des scénarios envisagés.
Dans l'état actuel des connaissances scientifiques et dans l'état actuel de ce que disent les autorités sanitaires en France, en Europe et dans le monde, il n'y a pas encore de doctrine qui soit établie disant qu'il faille une 3e dose ou des rappels. Mais de fait, nous nous y préparons. Et on peut se dire les choses, dans la meilleure des situations, la vaccination de masse nous libère du virus qui ne reviendrait pas, qui ne muterait plus. Et dans d'autres situations qui peuvent arriver, mais je n'ai pas de moyen de le prédire, je n'ai pas de boule de cristal, vous le savez, eh bien nous pourrions être obligés de proposer une nouvelle vaccination dans 1 an, dans 2 ans, à des personnes pour pouvoir les protéger dans la durée. Donc tout cela fait partie encore des hypothèses scientifiques, mais nous n'attendons pas que les hypothèses soient validées, nous travaillons tous les scénarios.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui était dans un centre de vaccination à Manosque cet après-midi. Il a également affirmé que la levée du couvre-feu n'est pas d'actualité car le niveau de circulation du virus reste encore trop élevé. On dénombre encore 309 décès supplémentaires dans les dernières 24 heures. Ce soir, près de 30 500 patients sont toujours hospitalisés à cause du Covid. 5 914 d'entre eux sont en réanimation. Alors toute la journée, RTL a décidé de rendre hommage au personnel soignant mobilisé depuis plus d'un an. Leur combat face à l'épidémie est loin d'être terminé. Philippe de Maria s'est rendu au service de soins intensifs du CHU de Bordeaux.
Le docteur Fabrice Camou, patron de la réanimation ici à Saint-André, termine une garde que l'on peut qualifier d'agitée sur le front de l'épidémie.
Rien qu'hier après-midi, il y a eu une petite dizaine de Covid qui sont arrivés entre 15h et 20h. Et on a quand même accueilli 3 patients dans le service hier après-midi parce qu'ils avaient besoin de forts débits d'oxygène.
Le médecin évoque sans tabou les morts du Covid dans son service. 24 décès sur 190 patients en 1 an.
C'est difficile à gérer. Penser qu'une maladie infectieuse va entraîner la mort d'un patient, c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans la psychologie des soignants et dans la prise en charge de nos patients.
Alors il faut parler aux soignants, proposer l'aide régulière d'une psychiatre. Sylvain est un jeune infirmier dans le service depuis 3 ans. Il a donc vécu toutes les vagues de Covid dans une tension constante.
C'est des patients qui prennent beaucoup de temps et qui peuvent changer d'une minute à l'autre. C'est vrai que ça dure depuis 1 an et donc on a ce travail perpétuel, continu. C'est assez tendu tout le temps. C'est un peu dur.
Un peu dur selon Sylvain, alors il apprécie de parler de la violence du virus avec d'autres soignants.
Ça se met en place, c'est vraiment important. Moi, je pense que c'est vraiment très bien, ça, ces moments de parole. C'est juste de la parole, c'est pas du soutien des fois psychologique, c'est juste le fait de pouvoir parler entre nous, d'avoir un temps dédié pour ça. Ça, c'est vraiment très bien.
Et malgré les morts, malgré la tension, la réanimation de Saint-André n'a pas enregistré de défection. Tout le monde est resté à son poste. Par contre, les propositions spontanées de renfort se font rares.
Au CHU de Bordeaux, le reportage de Philippe Demaria pour RTL.
Et malgré ces indicateurs inquiétants, le gouvernement assure que les efforts des Français commencent à payer.
C'est en tout cas ce qu'a déclaré tout à l'heure son porte-parole, Gabriel Attal. Selon lui, on commence à observer une diminution de l'incidence et une stabilisation de l'épidémie. L'exécutif est en train de plancher sur le calendrier de réouverture des commerces, des restaurants, des lieux culturels. Ça se fera progressivement à partir de la mi-mai. Mais déjà, en pleine vacances scolaires, la base nautique de Nausée en Loire-Atlantique a pu rouvrir au public depuis cet après-midi pour ceux qui pratiquent le wakeboard. Le nombre de participants est bien sûr limité, mais ça attire déjà beaucoup de monde.
Grande première, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'en fais.
On reprend un peu goût à la vie, hein. C'est pas mal, ça change du quotidien.
On avait hâte que ça puisse rouvrir, donc là quand on a eu la nouvelle de pouvoir revenir, ça nous a vraiment fait du bien. Bon, l'eau est un peu fraîche, 12-13 degrés, ça picote, hein. On est équipé pour, mais les pieds et les mains elles ont pris un petit peu, ouais. On profite des petits moments qu'on nous laisse, mais on a toujours encore une bride.
Ça se trouve, là, ce qu'on fait, ça va tenir 2 semaines et il y aura une nouvelle règle et ça tiendra plus. On sait ce qu'on peut prendre aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on pourra prendre demain, en fait.
Voilà, 12-13 degrés, il faut quand même être courageux. Des propos recueillis par Patrice Gabart en Loire-Atlantique pour RTL.
Une participation au plus bas pour les élections dans les petites entreprises.
La CGT est arrivée à nouveau en tête devant la CFDT, mais seuls 5% des salariés des TPE ont exprimé leur suffrage. Anaïs Bouissou, c'est du jamais vu.
Oui, on peut dire qu'on touche le fond pour ces élections qui concernent en principe 5 millions de salariés. Vous l'avez dit, seuls 5,4% de vote et c'est une mobilisation qui n'a fait que baisser. En 2012, on était à 10% de salariés votants. En 2017, la dernière fois, on atteignait péniblement les 7,3% de salariés mobilisés. Alors, l'une des explications des syndicats, c'est la crise. Les salariés étaient occupés sur d'autres fronts. Ils avaient autre chose à faire que de voter et la campagne syndicale a été compliquée à mener sur le terrain. L'autre piste pour comprendre, c'est que dans les toutes petites entreprises, dans les structures de moins de 11 salariés, quand vous êtes quasiment en tête-à-tête avec votre patron, vous ne voyez pas forcément l'intérêt d'avoir un syndicat en plus pour vous représenter. Et ce, malgré les incitations à voter passées par l'administration à grand renfort de communication ces dernières semaines. Ce résultat faible, tous les syndicats le reconnaissent, même la CGT arrivée en tête. Le syndicat Force Ouvrière va même jusqu'à se poser la question dans un communiqué de la pertinence de ce scrutin.
Anaïs Bouissou du service économie de RTL. Il avait été ministre sous Chirac et maire du Raincy de 1995 à 2014. Éric Raoult est mort. Il avait 65 ans. Le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, lui rend hommage. Compagnon gaulliste, adhérent historique du RPR. Éric n'a jamais renié ses convictions. L'eurodéputé du RN Thierry Mariani rappelle que surtout c'était un homme profondément généreux et bon, rare en politique.
RTL Soir
avec Stéphane Carpentier.
Et la suite du journal à 19h08 avec Alexandre de Saint-Aignan. Ce sont les États-Unis, la violence des armes meurtrit l'âme de notre nation. Ce sont les mots ce soir de Joe Biden après une nouvelle fusillade dans son pays.
Au moins 8 morts à Indianapolis. Ça s'est passé dans un entrepôt FedEx la nuit dernière. Un homme a ouvert le feu avant de se suicider, Karine Otten.
La police est encore très prudente car elle n'a pas formellement identifié l'auteur de la fusillade. C'est un témoin de la scène présent vers 23h à l'extérieur de cet entrepôt FedEx en marge de l'aéroport d'Indianapolis qui raconte ce qui se serait passé. Après avoir entendu une dizaine de coups de feu puis une rafale, il a vu un homme sortir criant, capuche sur la tête et fusil automatique au poing. La police confirme que 4 victimes ont été retrouvées à l'intérieur et 4 autres sur le parking. Le tireur, lui, s'est suicidé à l'arrivée de la police. Toujours selon ce témoin, il s'agirait d'un employé de l'entreprise logistique. Le maire d'Indianapolis est l'un de ces 150 maires qui ont demandé la semaine dernière au Sénat de resserrer les vérifications lors des achats d'armes. Et surtout, cette nouvelle fusillade intervient juste quelques heures après que Joe Biden ait annoncé des contrôles plus stricts à venir. Il a notamment donné un mois au département de la justice pour proposer une loi interdisant les armes fantômes, ces armes que vous pouvez acheter en kit et monter vous-même.
Les précisions de Karine Auten aux États-Unis pour RTL. L'escalade se poursuit entre Washington et Moscou. La Russie annonce qu'elle va expulser 10 diplomates américains en réponse aux sanctions prises la veille par les États-Unis. Le ministre russe des Affaires étrangères ajoute avoir recommandé à l'ambassadeur américain à Moscou de rentrer dans son pays. Dans le même temps, l'idée d'une rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine est perçue de manière positive, je cite, par Moscou suite à une proposition hier soir de la Maison Blanche.
Après le nuage noir de l'épidémie, le retour du beau temps pour la croissance chinoise.
C'est même un rebond spectaculaire, plus 18% sur un an. Même pour la Chine, c'est un record depuis 1992. Après l'effondrement de l'activité due à la crise sanitaire, l'économie chinoise retrouve son niveau d'avant la pandémie. Juliette Jess, c'est bon signe, hein, ça repart.
Oui, les conditions sanitaires s'améliorent. D'abord, grâce au vaccin, 10% de la population chinoise est immunisée et les salariés retournent au travail. Avec la sortie du confinement, les ménages chinois, eux, n'ont pas encore repris leurs achats. Mais ce sont surtout les exportations qui gonflent les chiffres. Nous, Français, Européens et Américains, nous avons acheté, par exemple, beaucoup de respirateurs artificiels et de masques chinois. Alors c'est une croissance spectaculaire, mais les économistes s'y attendaient. On appelle ça un effet miroir. L'an dernier, à la même période, la croissance chinoise avait beaucoup ralenti à cause de l'épidémie. En mars 2020, le volume des produits et des services chinois avait baissé de 7 points. Ça n'était pas arrivé depuis près de 50 ans. On compare donc les chiffres d'aujourd'hui à des statistiques très basses. 18% de croissance, ça fait beaucoup d'envieux. C'est en tout cas un excellent indicateur d'une reprise de l'économie mondiale.
Ça c'est sûr, les explications de Juliette Jay pour RTL.
Puis on reste en Chine, tiens, avec la paire de baskets la plus chère du monde.
Elles sont exposées, ces baskets, actuellement à Hong Kong, avant d'être vendues aux enchères. Une paire de chaussures au prix stratosphérique, ce sont des Nike Air Yeezy One. Et si elles sont si chères, c'est parce qu'elles ont été portées par Kanye West, le rappeur international qui les a inspirées, Philippe Dova.
Oui Alexandre, des baskets montantes noires, estimées au moins à 2 millions de dollars US, mais les prototypes uniques des Nike Air Yeezy One, fruit de la collaboration de l'équipementier américain avec Kanye West, est porté pour la première fois par le rappeur sur la scène des Grammy Awards en 2008. À ce prix, pas de risque de mauvaises odeurs, les Yeezy trônent dans une vitrine blindée, protégée par des agents de sécurité, mais pas de quoi impressionner les amateurs d'art comme Elvin.
C'est dingue, je ne sais pas quoi dire. 2,5 millions, mais ce n'est qu'une paire de chaussures. L'art, vous pouvez l'accrocher au mur. On ne peut pas comparer des chaussures à une œuvre d'art, en tout cas pour moi. Pour d'autres, c'est peut-être de l'art.
Et quitte à investir dans la chaussure, notre collectionneur préférerait un modèle signé Arizomi au prix dérisoire de 20 000 US.
Elles sont pleines de couleurs, elles me rendraient heureux. Je n'aime pas le foncé, ça stresse et rend malheureux. J'achète de l'art qui me rend joyeux.
Et si malgré tout vous rêvez de vous offrir les précieuses Kanye West et que vous chaussez du 46, Alexandre, alors faites-vous plaisir. En toute discrétion, la vente est privée et Sotheby's ne communiquera ni le prix final, ni le nom de l'acheteur.
Bon, si ça vous dérange pas, Philippe Dova, je vais passer mon tour. Moi, je fais du 42, je sais pas pour vous, Stéphane. Peut-être.
46, moi. Ah, bon, voilà. Mais j'ai pas d'argent.
Allez, du football ce soir à suivre sur RTL à partir de 20h. Un match avancé de la 33e journée de Ligue 1 avec Lille qui reçoit Montpellier, le LOSC leader qui va tenter de conserver ses 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain.
Alexandre de Saint-Aignan vous a informé, il revient rien que pour vous tout à l'heure à 20h sur RTL. La météo, Valérie Quintin, toujours froid?
Ah oui, non, mais on s'en sort pas. On va encore avoir quelques gelées demain matin dans l'Est ou encore dans les régions centrale avec un ciel souvent dégagé au réveil, sauf près de la Méditerranée où on aura déjà quelques averses orageuses. Ça va être le cas toute la journée, même si ça va régresser un petit peu vers la Corse et plutôt en Méditerranée. Sur le continent, on peut espérer une petite accalmie, notamment vers les Alpes-Maritimes et le Var. Ailleurs, un ciel assez nuageux dans l'après-midi, des éclaircies un peu plus larges près des côtes de la Manche et près des côtes atlantiques et des températures qui ne décollent pas. 11 degrés à Langres et à Tarbes dans la journée, 12 à Rouen et Lyon, 13 à Alençon, à Paris, à Biarritz, 15 à Montélimar et 16 à Nice et à Bastia.
C'est normal pour une mi-avril, ça?
Non, c'est pas normal.
C'est
on
pas
est
normal,
en dessous. Cette fois, on est vraiment en dessous, oui.
Faites quelque chose, Valérie.
Mais je sais pas, j'ai peut-être un petit truc pour la fin de semaine.
Ouais.
Mais c'est pas gagné. Et puis, ce sera pas foufou non plus. Hein.
Valérie Quintin, la météo complète pour votre week-end. Donc, il va faire bien froid. On va se réchauffer tous ensemble avec l'équipe d'On défait le monde.
Ah, oui.
On est ensemble jusqu'à 20h avec Brice Dugénie, Laurent Tessier, Marie Mollet, Greg Omanette et bien sûr, Cyprien Sidi. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Ça fait chaud au cœur d'être avec vous.
À tout de suite.
RTL Soir.